Suivre juste après le journal. Onze heures à Paris, 9 heures en temps universel. Merci d'être avec nous. RFI vous informe. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Dans l'actualité, le Liban sous le choc après les deux vagues d'attaques inédites lancées avec des beepers et des talkie-walkie piégés. Les victimes sont nombreuses. 20 membres du Hezbollah tués pour la seule journée d'hier. Attendu maintenant la prise de parole de son chef Hassan Nasrallah. En France, deux semaines après sa nomination à Matignon, Michel Barnier mène sa dernière journée de consultation avant peut-être de pouvoir former son gouvernement. Dans ce journal également, de nouvelles violences urbaines déclenchées par la vie chère en Martinique. Un couvre-feu partiel est décrété dans cette île des Antilles françaises. Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo demande clémence pour sa famille emprisonnée. Et la baisse des taux de la Fed, la banque centrale américaine, applaudie par les marchés. Ce matin, les bourses européennes ont ouvert en nette hausse. Le Hezbollah libanais a confirmé ce matin la mort de 20 de ses membres dans les explosions de talkie-walkie hier attribuées à Israël. On estime le total de blessés à 450 dans cette nouvelle vague d'attaques qui a suivi celle de mardi, lancée au moyen de beepers piégés. Le Hezbollah accuse Israël qui s'est refusé à commenter. Attendu maintenant la prise de parole d'Hassan Nasrallah, le puissant chef de la formation chiite. Ce sera cet après-midi 17h heure de Beyrouth. En attendant, c'est la sidération dans la population libanaise et une forme de psychose qui s'installe. Reportage de notre correspondante Sophie Guignon.
Un cauchemar, un mauvais roman d'espionnage. Quand le bruit d'une seconde vague d'explosion s'est répandu à travers le Liban, l'inquiétude et la méfiance ont gagné Oda, béroutine et mère de deux enfants.
J'ai très peur. C'est dur de rassurer ses enfants quand toi-même tu n'es pas rassuré. On a peur, mais on ne sait pas de quoi. Et on a peur de tout. Tu rentres chez toi, tu as peur. Tu sors de chez toi, tu as peur. On ne se sent pas en sécurité.
À proximité de l'un des hôpitaux de la capitale qui accueille des blessés de ces attaques aux beepers et aux talkie-walkie, Mona gère un café. Elle fume nerveusement un narguilé en regardant son téléphone d'un air perplexe.
Je n'ose plus tenir mon téléphone dans mes mains. Avant, je le posais à côté de moi pour dormir, mais maintenant, je n'ose plus. Et puis, j'ai acheté un billet d'avion. Je veux partir. Je ne reste plus ici. Maintenant, j'ai peur de tout. Ah tiens, c'est mon fils qui appelle pour prendre des nouvelles.
Si les vols sont maintenus, Mona partira, elle, pour la Turquie. Face au risque d'escalade, le ministère des Affaires étrangères demande aux ressortissants français de ne pas se rendre au Liban. Sophie Guignon, Beyrouth, RFI.
Et parmi d'autres réactions internationales à la situation au Liban, la ministre allemande des Affaires étrangères a mis en garde toutes les parties contre une escalade au Proche-Orient. En France, deux semaines après sa nomination à Matignon, les obstacles s'accumulent pour Michel Barnier. La formation de son gouvernement se fait toujours attendre et pour beaucoup d'observateurs, elle tient de l'équation impossible. Ce matin, Matignon a fait savoir que Michel Barnier menait sa dernière journée de consultation en recevant notamment les présidents des deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat. De nouvelles violences ont éclaté en Martinique, île des Antilles françaises, peuplée d'environ 350 000 habitants. En conséquence, le préfet a signé un arrêté de couvre-feu dans certains quartiers de Fort-de-France. Depuis plusieurs nuits, des violences urbaines secouent la Martinique, dont la population proteste contre la vie chère. Autre territoire français, la Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique, qui n'en a pas fini avec les violences. Deux personnes sont mortes lors d'une opération de gendarmerie, portant à 13 le total depuis début mai. Les faits se sont déroulés au sud de Nouméa, à Saint-Louis, où la mobilisation contre la réforme du corps électoral a dégénéré en émeute. Depuis, cette réforme a été suspendue par Emmanuel Macron. Les précisions sur place de Charlotte Manvi.
Les deux victimes âgées de 24 et 31 ans se savaient recherchées et se cachaient depuis des semaines à la tribu de Saint-Louis. Elles sont soupçonnées avec une dizaine d'autres personnes d'être les auteurs des 330 tirs essuyés par les forces de l'ordre à cet endroit. Le but de ces jeunes, souvent déjà passés par la prison, est de tuer un gendarme ou de mourir, indique un haut responsable de la gendarmerie qui assure avoir multiplié les médiations coutumières et familiales pour inciter ces hommes à se rendre. Ces décès portent à 3 en 2 mois le nombre nombre de morts à Saint-Louis lors d'opérations des forces de l'ordre. Le 10 juillet dernier, c'est leur chef présumé, Roch Victorin Wamitan, dit Banane, qui avait été tué par un tir de riposte entraînant un regain de tension. 10 jours plus tard, l'église de la mission de Saint-Louis, berceau du catholicisme en Calédonie, était incendiée. Charlotte Manvie, Nouméa, RFI.
La Commission européenne frappe la Hongrie au porte-monnaie. Budapest refusait de payer une amende de 200 millions d'euros infligée par la Cour de justice de l'Union européenne et ce pour avoir fermé ses frontières aux migrants en 2015. Violation très grave du droit européen, dénonçait la Cour. La Commission a donc décidé de se payer directement en retenant une partie des subventions européennes. Correspondance à Bruxelles de Pierre Benazé.
Les services financiers et les services juridiques de la Commission européenne ont commencé ce lundi à éplucher tous les paiements destinés à la Hongrie. Le pays reçoit encore une grande partie des fonds et des subventions européennes, malgré le blocage de près de 20 milliards d'euros pour non-respect de l'état de droit. Les paiements à venir vont être passés au crible. La Commission va prélever 200 millions d'euros directement et la Hongrie ne pourra recevoir que ce qui reste. La procédure de récupération des amendes sera aussi appliquée à terme à l'astreinte d'un million d'euros par jour, à laquelle la Hongrie a été condamnée en juin, tant qu'elle ne se conforme pas à l'arrêt de la Cour. La Hongrie a fermé ses camps de transit pour les migrants à Ruske et Tompa, à sa frontière avec la Serbie. Mais en revanche, la Hongrie évite délibérément d'appliquer le droit de l'UE pour les migrants. Elle leur barre l'accès à la procédure de demande d'asile. Elle empêche les demandeurs d'asile de rester en Hongrie dans l'attente d'une décision définitive sur leur demande. Et elle éloigne les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier vers leur pays de départ ou de transit sans respecter leurs droits. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo Ondimba sort de son silence. Plus d'un an après avoir été renversé par un coup d'État, il s'exprime dans une lettre ouverte diffusée par ses avocats. Ali Bongo demande que soit libérée son épouse Sylvia et son fils Noureddine, incarcéré depuis un an à la prison centrale de Libreville. Pierre Firsion.
Dans cette lettre de 2 pages, Ali Bongo demande à son pays, ses dirigeants et ses concitoyens de ne pas céder à la vengeance contre sa famille. L'ancien président en appelle, je cite, « à l'apaisement, à l'arrêt des violences et des tortures intentées contre ma famille, plus particulièrement mon épouse Sylvia et mon fils Noureddine, et à leur libération ». Sa femme et son fils, qui ajoute-t-il, sont depuis trop longtemps désormais emprisonnés pour des faits dont ils n'ont pas été reconnus coupables, bouc émissaire d'une situation qui va bien au-delà de leur personne. Fin de citation. Concernant sa situation personnelle, Ali Bongo dit ne pas être libre de ses déplacements et affirme être soumis à surveillance quotidienne. L'ancien locataire du palais du bord de mer entend assumer seul son bilan. Il se dit conscient de ce qui a été accompli sous sa présidence, mais admet également des insuffisances. « Je comprends que malgré les réalisations effectuées sous mes mandats, trop de Gabonais souffrent encore et cela reste mon plus grand regret », écrit-il en forme de mea culpa. Ali Bongo assure comprendre la volonté des citoyens de souhaiter de nouveaux responsables politiques. En conséquence, il réaffirme son renoncement définitif à toute ambition nationale. Cela vaut également pour Sylvia et Noureddine, prend-il soin de préciser.
Pierre Firsion, Sylvia et Noureddine Bongo sont poursuivis pour notamment haute trahison. Leurs avocats dénoncent depuis des mois leurs conditions de détention. L'économie maintenant, avant de refermer ce journal, comme elle l'avait laissé entendre à la fin du mois d'août, la Fed, la banque centrale américaine, vient d'abaisser ses taux pour la première fois depuis 4 ans. L'incertitude entourait l'importance de son geste. Finalement, la Fed a opté pour une baisse d'un demi-point, signe que la lutte contre l'inflation a porté ses fruits. Outre l'économie américaine, c'est aussi une bonne nouvelle pour les marchés émergents. Nathanaël Vitran.
D'autant que la Fed dégaine après les banques centrales de la zone euro, du Royaume-Uni, du Canada ou encore de la Suisse. En interne, cela veut dire qu'il sera plus facile d'emprunter et donc d'investir pour les entreprises et de consommer pour les particuliers. C'est donc en théorie bon pour la croissance. Ça n'est pas sans contrepartie. La perspective d'un redémarrage tire les prix du pétrole vers le haut et vient alourdir le budget des pays qui ne sont pas producteurs d'or noir. Mais la baisse des taux signifie aussi que placer son argent dans ces pays riches rapportera moins. Comparativement, investir dans les marchés émergents redevient donc potentiellement plus intéressant. Les investisseurs étrangers n'ont d'ailleurs pas attendu. Reuters notait en début de semaine qu'ils avaient investi plus de 30 milliards de dollars dans ces marchés du sud global au mois d'août. Mais toutes les régions ne sont pas sur un pied d'égalité. L'Asie a absorbé 17 milliards de dollars contre moins de 3 milliards pour l'Afrique et le Moyen-Orient.
Nathanaël Vitran. Et sachez pour finir que la baisse des taux de la Fed est applaudie par les marchés. Ce matin, les bourses européennes ont ouvert en nette hausse, plus 1,5% à Paris. Bonne journée sur RFI. Tout de suite, priorité santé.